marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Mesdames, messieurs, la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire.
La peur avant la terreur.
Dis Guillaume, les brigands, tu les as vus? On dit qu'ils sont habillés de fer blanc, qu'ils vont mettre tout à feu et à sang. C'est vrai?
À Bénac, ils ont tiré un coup de pistolet sur un homme qui revenait de vendre des bœufs. Ils ont brisé la cuisse de son cheval et ils lui ont volé 100 louis.
J'étais à Paris il y a 8 jours. Dites-moi, est-il vrai qu'à la suite des troubles qui ont accompagné la prise de la Bastille, des milliers de prisonniers sont échappés?
Sur la route, tout le monde en parlait.
Hier, le prévôt de Brive me disait que dans la nuit du mercredi au jeudi, une bande avait mis le feu à la porte d'une ferme près du bois de Villiers.
Et on dit qu'il y a 5000 mercenaires dans les bois au-delà de Limoges.
5000? Quelqu'un les a-t-il comptés?
Ils refusent de nous armer.
Essai de reconstitution de la grande peur qui a traversé une demi-douzaine de provinces françaises l'été 1789. Rumeurs, soupçons de complot, conjurations de dangers généralement imaginaires et dénonciation des ennemis jusqu'à l'incendie de leur maison, de leur château. Dès ses débuts, la Révolution a oscillé entre des moments de ferveur et d'autres dominés par la panique. Ferveur et peur, générosité et férocité. On allumait les flambeaux les jours de fête, mais combien de nuits furent illuminées aux bougies et aux lanternes afin de surveiller et de faire rendre gorge aux ennemis qui auraient pu tirer parti de l'obscurité. Les nouvelles élites qui vont occuper les fonctions politiques n'ont pas été préparées à tant de tempêtes. Ce sont généralement des gens de bien qui portent de haut en bas des perruques poudrées, des culottes, des bas, des souliers à boucles d'argent. Ils sont volontiers optimistes et voilà que s'effondrent les vieilles institutions tandis que surgissent des événements qu'il était impossible d'anticiper. La violence n'était pas inscrite dès l'origine de la Révolution dans l'esprit de ceux qui la faisaient au jour le jour. Les émotions la firent monter par accès de fièvre. Et ce qui interroge particulièrement l'historien, c'est qu'elle dressa les uns contre les autres des citoyens qui partageaient l'essentiel. Un exemple, comment, entre 1791 et 1792, les députés élus à la législative, qui se ressemblaient tant, purent-ils se déchirer si âprement au point de se considérer comme des ennemis? De 742 au départ, il n'était plus que 300 assiégés à la mi-1792, avant que les septembriseurs n'enfoncent les portes des prisons et n'y massacrent les détenus. Mais comment diable, en période de révolution, se demandait Louis-Sébastien Mercier, en plomb vil, l'or pur, se change-t-il?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
C'est la réflexion de Timothy Taquet, bonjour.
Bonjour.
Professeur à UCLA, en Californie, qui connaît la France depuis très longtemps et travaille sur la Révolution depuis des lustres, votre dernier livre, Anatomie de la Terreur, aux éditions du Seuil. C'est d'ailleurs en période de Révolution que vous avez fait connaissance avec la France. 50 ans après, vous pourriez peut-être évoquer votre mai 68.
Eh oui, j'étais étudiant à l'époque à Poitiers, à l'université de Poitiers. Et au mois de mai, il n'y a rien qui marchait. Il n'y avait pas de transport, pas d'université non plus. Alors j'ai commencé à faire du stop un peu partout en France. J'étais à Bordeaux, j'ai vu une émeute. Et puis
une émeute?
Oui, oui. Il y avait des types sur l'hôtel de ville qui jetaient les pierres en bas sur les policiers. C'était assez sérieux. Et puis j'ai été aussi impressionné par les émotions à l'époque. Ce mélange de peur et de joie déjà en 68.
L'émeute, le vide de l'autorité, l'émotion, des éléments que nous allons retrouver, qui ont parcouru l'existence des personnes que vous avez rassemblées comme pour faire un échantillon, enfin un échantillon large. Ce sont des gens qui se ressemblent assez socialement, je décrivais leur habillement, et qui peuvent être aussi des femmes et pas seulement des hommes, des provinciaux et pas seulement des Parisiens, mais c'est quand même relativement homogène, ce sont les élites.
Oui, oui, tout à fait, c'était des élites et j'avais passé des années à ramasser ces témoignages, surtout cette correspondance entre les gens qui habitaient surtout Paris et puis leurs amis, leurs parents, leurs collègues en province.
Ce sont soit des élus de tout niveau, soit des gens qui sont lus. par leur correspondance ou par leur texte. Louis-Sébastien Mercier, c'est un des plus connus. Oui, je le citais, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus.
C'est ça, oui. Nicolas Rouault, par exemple, un témoin formidable, qui a écrit à son frère en Normandie. C'était un converti à Voltaire avant la Révolution, et puis il est devenu jacobin par la suite.
On entendait en exergue des échos de la grande peur qui a eu lieu à partir de juillet 89. 13 juillet, grande tempête dans le nord, 14 juillet, prise de la Bastille, et puis après, des rumeurs qui circulent à travers le pays et provoquent des émotions qui sont disponibles à l'utilisation. C'est un moment très révélateur.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les rumeurs et la peur n'ont pas cessé avec la grande peur de 89, décrite dans le livre célèbre de Georges Lefebvre. Ça a continué. Et certains de mes témoins donnent l'idée de Paris où les rumeurs vibrent, n'est-ce pas? Il y a toujours, presque chaque semaine, une nouvelle théorie que les brigands dans la prison vont sortir, qu'il y a des gens qui mettent du verre dans le pain, qu'il y a des méchants qui se cachent dans les égouts.
Mais c'est pas la même rumeur que sous l'Ancien Régime. Si, sous l'Ancien Régime, la rumeur, elle naissait de la censure, elle naissait du secret. Et là, elle naît de la multiplicité des sources.
C'est ça, des multiplicités des sources d'information. Il y a une centaine de journaux déjà à la fin de l'année 89 qui sont publiés à Paris.
Mais un jour, vous prolongerez cette réflexion sur la rumeur en vous interrogeant sur la multiplicité des sources aujourd'hui et la multiplication des rumeurs aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est les recherches sur les rumeurs d'aujourd'hui qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre, à partir des recherches des psychologues sociaux, ce que c'est que la rumeur.
La débâcle des anciennes institutions laisse vos témoins dans la plus grande incertitude. Parce qu'il y a comme un interrègne pendant un moment.
Tout à fait, oui. Surtout à partir de l'été 89 et après le massacre de l'intendant de Paris, tous les intendants en province commencent à se cacher, à fuir. Les intendants, mais aussi les magistrats, les lieutenants de police, c'est l'effondrement de la bureaucratie de l'Ancien Régime.
Alors, pousse-toi de là que je m'y mette. Certaines institutions tentent de prendre la place, un extrait de la Marseillaise de Jean Renoir.
Moi, je ne comprends pas ces bureaucraties. Est-ce qu'on a besoin d'une carte pour faire la révolution? Ça, c'est toi et tes collègues, les écrivains, les savants, qui inventent toutes ces paperasses pour vous donner de l'importance.
Mon ami, on ne crée pas de l'ordre avec du désordre.
Mais pas de honte, ça. Ils se sont mis à dire, disent les gens de bonne famille pour attaquer dans une rue le citoyen Mouret, le maire de Marseille que nous venons d'élire.
Oui, nous voulons l'ordre dans les rues.
Parfaitement. La réactionnaire d'en dire la loi.
Et les riches doivent payer l'impôt.
Nous, les portefaix du port de Marseille, travailleurs disciplinés et ennemis de la violence. Nous qui avons arrêté la révolte quand la populace voulait saccager la maison du fermier Robuffet. Nous flétrissons les lâches attentats commis contre la tranquillité publique, par lesquels les réactionnaires marquent leur défi de la victoire du peuple.
Bravo!
Alors à Marseille, où commence le film de Renoir, on attend beaucoup du maire, mais enfin pour que cette nouvelle institution réussissent à s'implanter et à parler plus fort que les portefeuilles ou que les poissonnières du Vieux-Port, il faut du temps.
Oui, c'était tout un problème, n'est-ce pas? Et l'essentiel, c'était, ça se trouve dans ce mot « liberté ». Tout le monde commençait à parler de la liberté ou aussi de la souveraineté populaire. Mais où sont les bornes de la liberté? Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi ou est-ce qu'il faut s'arrêter? Donc c'est vraiment un problème de
distinction.
Des distinctions, absolument. Et puis en plus, il y a un problème institutionnel. Il fallait établir de nouvelles institutions et ça a pris du temps. Et même quand les institutions existaient, c'était toujours ces niveaux, département, district, municipalité. Et les unes ne voulaient pas obéir aux autres parce qu'après tout, on avait la souveraineté populaire. On pouvait décider soi-même quel décret obéir, quel décret ignorer.
Les émotions sont souvent négatives, dites-vous, Timothy Taquette. Alors, qu'est-ce qui catalyse la colère? Il y a le départ des premiers émigrés dès la mi-juillet 1789. 1789, et puis la constitution civile du clergé, qui est créée pour constituer un corps clérical qui s'intègre dans le nouveau système politique. Alors, les représentants de vos élites, ceux que vous suivez, comprennent pas toujours très bien les subtilités théologiques, ecclésiastiques. Tenez ici un dialogue pour le leur faire comprendre. Il est un peu tard. Nous sommes dans un séminaire à Viviers, dans l'Ardèche.
Quand vous verrez la désolation de l'abomination se dresser au milieu du temple, alors, si vous habitez les plaines de Juda, prenez la fuite et gagnez la montagne.
Monsieur Vernet, vous voulez nous quitter?
Le temps de la persécution est venu, mon père.
Un peu trop d'inquiétude.
Ce qui se passe à la cathédrale ne vous en inspire aucune?
Monseigneur de Savine a toujours été acquis aux idées nouvelles.
Les pauvres gens qui l'entendent jurer fidélité à la Constitution n'en croient pas leurs oreilles.
Monseigneur est un homme bon. Dès que le pape se sera prononcé sur la constitution civile du clergé, l'évêque de Viviers s'y conformera. Comme nous tous.
La décision du Saint-Père est prévisible.
Vous croyez?
La constitution civile sera condamnée.
Les biens du clergé sont confisqués depuis plus d'un an. Où voyez-vous qu'on ait condamné ceux qui en ont acheté?
Mais les nouvelles lois ne frappent plus seulement le corps de l'Église. C'est son esprit qu'on cherche à détruire. Les évêques et les curés élus par le peuple, les protestants, les juifs, les athées, admis à désigner nos prélats et nos prêtres. Quant au pape, on lui notifiera simplement le résultat de ces élections dérisoires.
Le roi est assez bon catholique pour abroger une réforme que toute l'Église de France aura repoussée.
Croyez-vous que le pouvoir soit encore aux mains du roi? Le roi n'est plus qu'un otage de la Révolution.
Une dramatique de 76, TF1, de Gérard Vergès. Et en effet, le pape refusera la constitution civile. Les prêtres réfractaires qui ne la jurent pas deviendront des opposants, seront considérés comme des ennemis. Quant au roi, il n'est pas la solution, il est le problème. Le roi, les émigrés, les réfractaires, une conspiration multiforme.
Absolument, et puis... C'est ça le problème avec des prêtres réfractaires. On ne savait pas ce qu'ils faisaient dans le confessionnel ou au catéchisme. Est-ce qu'il y a des administrateurs de l'époque qui disent que tous les prêtres réfractaires, c'est les contre-révolutionnaires? En fait, c'est pas vrai, on le sait. Mais donc, on s'inquiétait beaucoup du clergé, peut-être encore plus que des nobles à l'époque.
Oui, mais je parlais tout à l'heure de conspiration imaginaire. Le roi, c'est pas de l'imagination. La famille royale et lui sont partis, ils ont fui à Varennes rejoindre les forces étrangères.
Oui, c'est vrai. Et le pire, c'est que le roi, avant, il avait prêté des serments religieux devant tout le peuple qu'il allait obéir à la Constitution. Et puis, quand il est parti, il a laissé sur son bureau... une lettre où il a renié tout. On ne pouvait pas avoir confiance dans ce roi. Après, en septembre 91, il a signé la nouvelle constitution. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment avoir confiance à quelqu'un qui a été parjure auparavant?
L'émotion, dites-vous, elle vient de l'imprévisibilité. Et ça, on ne le prévoyait pas. C'est comme une chute vertigineuse dans un abîme.
C'est vrai. Il y a beaucoup d'incertitudes dans la Révolution. On oublie parfois combien c'est difficile, c'est pénible de passer par une Révolution. On a sûrement beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Il y a toujours ce côté de la Révolution. Mais qu'est-ce qui va arriver demain? À qui est-ce qu'on peut avoir confiance? Même quand les hommes dans lesquels on avait beaucoup de confiance nous ont trahis. Le roi, en fait. Et puis, un petit peu plus tard, Lafayette, Mirabeau, Dumouriez, c'est terrible.
14 juillet 1790, on avait au Champ de Mars fêté dans la ferveur et l'unité la Fédération. 14 juillet 1791, après la fuite de Varennes, après le retour forcé du roi, des membres de la population parisienne viennent signer une pétition pour remplacer l'autorité exécutive. Les gardes tirent sur les gens, il y a peut-être 100 morts, les 14 juillet ne se ressemblent pas. Et faut-il bientôt ajouter aux paroles charmantes du assaillira des débuts, d'autres plus violentes. Juliette Gréco.
Assaillira, assaillira, assaillira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Assaillira, assaillira, assaillira. Malgré les butins, tout réussira. Nos ennemis corrompus en restent là. Et nous allons chanter Alléluia.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'évangile. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les butins, on réussira.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
On sent que ça se gâte. Nous sommes en compagnie du grand historien américain de la Révolution française, Timothy Tackett, qui publie Au Seuil, Anatomie de la Terreur, les peurs dès avant la terreur. Vous racontez, moi j'ignorais ça, que beaucoup de nuits ont vu Paris s'illuminer, mais pas de joie, comme au moment de la fête de la Fédération, pour débusquer l'ennemi qui se cachait dans les rues.
Il y avait toute une série de paniques, de véritables paniques à Paris. Après la fuite du roi, par exemple, au mois de mai 92, en septembre 92, en mars-avril 93, et donc à chaque moment, chaque fois qu'il y avait cette panique qui a touché pas seulement le peuple, mais aussi les élites, qui a touché tout le monde. On avait peur des coups qu'on allait lancer contre les patriotes et c'est la municipalité qui a commandé quand tout le monde met un bougie ou une lanterne à la fenêtre.
Parce que les élites sont susceptibles d'être touchées par les rumeurs autant que les gens moins éduqués. Vous le voyez ça dans échantillon que vous suivez pas à pas.
C'est curieux. Les élites étaient parfois très sceptique à ces rumeurs. Il y avait des rumeurs, mais absolument ridicules, comme j'ai raconté tout à l'heure. Mais quand la situation était vraiment tendue, parfois il y avait une sorte de fusion entre les émotions des masses et les émotions des élites. Parfois, il y avait une véritable panique.
La culture ne protège pas.
Non.
Nous sommes rassurés. Nous sommes en 1791, se réunit une nouvelle assemblée. Les constituants ont constitué. Le roi, vous l'avez dit, a prêté un serment, au moins une façade à la Constitution. Ce sont des députés qui laissent la place à d'autres et qui ont décidé de renoncer à se représenter. Ils sont 742, les nouveaux membres de la législative, et vous les décrivez comme étant assez semblables, en beaucoup de points, les uns aux autres. Et voilà deux énigmes qui vous laissent perplexes. Première énigme. Ces gens qui se ressemblent vont se constituer en une, deux, puis trois factions. Les Feuillants, les Girondins, les Montagnards. Ces gens qui se ressemblent et qui ne pensent pas à la guerre vont se laisser prendre pour une bonne part d'entre eux par le parfum enivrant de la déclaration de la guerre à l'Autriche.
Oui, oui, donc sur beaucoup de points, ils étaient tout à fait d'accord, comme vous dites. Certainement sur la déclaration de guerre, il n'y avait que 7 sur les 745 qui ont voté contre la guerre. On était convaincus qu'on allait libérer l'Europe, qu'on allait répandre les idées de liberté, de fraternité sur tous les pays du vieux continent. Mais quand même, il y avait ces terribles faction. Et c'est, comme vous dites, c'est un mystère. Comment ça s'est constitué? À mon avis, il faut insister beaucoup sur la peur, de nouveau, et sur l'existence de plus en plus répandue de cette idée d'une grande conspiration. Pas une petite, mais une grande, où il y avait quelques personnes qui tiraient des ficelles. Et on avait l'impression que tout ce qui ne marchait pas dans la Révolution, le prix du pain trop élevé, l'inflation des assignats, les émeutes à la campagne étaient manipulées, manœuvrées par ce petit groupe de personnes. Et surtout, de plus en plus, on soupçonnait un comité autrichien au cœur de la monarchie même.
Alors, l'Assemblée législative se réunit avec les tribunes pleines. Les tribunes sont pleines de sans-culottes.
Oui, mais il faut être d'accord sur ce que c'est qu'un sans-culotte. Un J'insiste sur le fait que les sans-culottes ne sont pas seulement les ouvriers, les artisans de petite bourgeoisie. Il y a aussi la classe moyenne là-dedans, les militants radicaux de gauche qui, ont, de très bonne heure, ont accepté, ils se sont mis ensemble avec les ouvriers et qui contribuaient à les politiser, mais ils les ont loués au ciel aussi. Parce qu'ils estimaient que c'était eux qui ont sauvé la révolution à plusieurs moments. C'était ceux qui avaient une sorte de sagesse quasi mystique et qu'il fallait travailler ensemble. Donc, les sans-culottes, c'est un mélange entre les radicaux militants de gauche et les artisans, le petit peuple de Paris.
Mais c'est une pression constante aussi.
Oui, une pression paisible, si vous voulez. C'est avec les manifestations de rue, avec les banquets fraternels dans les rues, avec les pétitions, avec l'assistance très vocale dans les tribunes de l'Assemblée nationale ou de la Convention. Il y avait toujours cette présence de ce mélange, ce front populaire. Des sans-culottes.
Front populaire, oui, l'utilisation du mot est révélatrice. Eh bien, on va entendre un extrait d'un film produit à l'époque du Front populaire, La Marseillaise, de Jean Renoir. C'est le plus beau film sur la Révolution
Absolument,
française.
Absolument, je suis d'accord.
Le roi a déclaré au nom de l'Assemblée la guerre. La guerre commence très mal, de manière même catastrophique. L'Assemblée multiplie les mesures qui ne sont pas appliquées, notamment parce que le roi y oppose son veto. Parmi les mesures, il y a l'appel à des fédérés qui viendraient des provinces de Bretagne, par exemple, ou, et nous sommes dans le film de Jean Renoir, de Marseille.
On parle d'envoyer dans le nord un bataillon de Marseillais. On nous dit qu'ils passeront par Paris avant d'aller à la frontière. Mais on nous en a tellement raconté que nous sommes devenus méfiants. Ce qu'il nous faut, c'est une certitude. C'est l'assurance que nos hommes, avant d'aller présenter leur poitrine au canon des Autrichiens, auront fait justice des chefs criminels.
Je donne la parole aux citoyens voisins. Citoyens, je vais vous expliquer pourquoi la ville de Marseille a décidé d'envoyer dans le Nord un bataillon de volontaires. Ce bataillon, à l'exemple des autres fédérés partis de tous les points de la France, ira représenter devant le roi et devant l'Assemblée la volonté de la nation. La ville de Marseille exigera de chaque volontaire le serment d'aller d'abord à Paris, de s'y mettre en rapport avec les sections patriotiques, ainsi qu'avec les autorités des autres départements, et de ne quitter la capitale qu'après avoir obtenu le rappel des ministres patriotes. Les mesures de rigueur contre les prêtres réfractaires, contre les agents de l'étranger et des princes, contre les spéculateurs et autres adversaires de la Révolution.
Trois points de suspension. On nous en a tellement raconté qu'on ne va plus s'en laisser compter. Et nous ne rejoindrons le front qu'une fois réglée la question de l'exécutif à Paris.
Je veux dire d'abord que j'adore ce film et que cette montée à Paris, c'est magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, le roi a opposé son veto sur l'appel des fédérés à Paris. Mais les fédérés sont venus quand même. Ça montre quel point le pouvoir du roi était délégitimisé. N'est-ce pas? Donc,
Le 20 juin, le roi a été visité par une procession, on va dire non violente, n'est-ce pas, qui l'a serré de près, ainsi que la reine et le dauphin, au palais des Tuileries, où il est de fait prisonnier. Et le 10 août, allez, dernier écho de la Marseillaise de Renoir, c'est la préparation de l'assaut du palais.
Garde à vous, peloton ! Mes camarades, notre collègue Garnier, délégué par nous au comité central à l'hôtel de ville, nous fait dire qu'à l'heure actuelle, nos frères de la section du théâtre français s'apprêtent à donner le signal du départ. Ce signal, c'est un coup de canon qu'ils doivent tirer du pont Saint-Michel. Aussitôt, les cloches de toutes les églises patriotes de Paris sonneront le tocsin et appelleront aux armes les citoyens des sections révolutionnaires et les fédérés. réunis aux forces du théâtre français, du faubourg Saint-Marceau et des fédérés bretons, nous irons prendre nos positions devant la porte du château. Nous parlerons aux Suisses et aux malheureux Français forcés de défendre une cause perdue. S'ils résistent, faisons notre devoir, tout en les épargnant du mieux que nous pourrons. Et que chacun se dise que, quel que soit son sort personnel dans la bataille, le soleil se couchera demain sur une France purifiée de la trahison et prête à faire face à l'envahisseur étranger.
Et sur 1000 cadavres aussi. Le mot « terreur » commence à être employé de manière significative à ce moment-là, avec la chute de la monarchie.
Oui, oui.
On pourrait, de façon répétée.
Oui, on pourrait le dire. Et c'est significatif, n'est-ce pas, que Jean Renoir a sauté tout à fait cette période entre...
La période qui suit.
Oui, jusqu'à Valmy, bien sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé alors entre le 10 août et Valmy?
Beaucoup. Et puis, c'était encore une sorte d'interrègne. C'était l'effondrement du pouvoir et
la montée d'un pouvoir insurrectionnel qui était la Commune de Paris.
Oui, il y avait le pouvoir était divisé entre l'Assemblée législative, la Commune, les sections aussi, les Jacobins aussi, et puis le Conseil exécutif dominé par Danton, par Georges Danton, qui était censé obéir à l'Assemblée législative, mais qui n'a pas toujours le fait.
Alors colmatons les brèches de Jean Renoir. Ce sont les hommes du 10 août, qu'on voit là glorieux avant l'assaut, qu'on va retrouver, qui en septembre enfoncent les portes des prisons et procèdent au massacre de septembre.
Oui, le terrible massacre de septembre. Il faut remarquer quand même qu'ailleurs qu'à Paris, il y avait des meurtres. Il y avait une centaine de meurtres dans à peu près un tiers des départements avant les journées de septembre. Les journées de septembre qui révèlent la puissance des rumeurs de cette époque. Il y avait toujours des rumeurs des gens qui allaient s'échapper des prisons.
On a encore illuminé de nuit Paris à la fin du mois d'août, justement.
Oui. Mais maintenant, avec tous ces prisonniers nobles dans les prisons de Paris, et aussi, il ne faut pas oublier que les gens qui ont attaqué les Tuileries étaient convaincus que c'était une embuscade, on dit.
C'était un piège dans lequel les Suisses allaient les faire tomber.
Ils ne parlaient pas du massacre des Suisses, mais du massacre du Saint-Laurent. Du Saint-Laurent, tout le monde en parlait. Et c'était à la fois la peur et la colère.
Vous employez le mot de première terreur pour définir ce moment. On va faire une ellipse, nous, sur la terreur constituée objectivement, paraît-il, par les livres d'histoire. Valmy, retournement de fortune, la convention qui remplace la législative, ramène l'ordre et le calme, cette convention qui va s'entretuer après. Si on lit bien votre livre, au fond, la terreur, elle ne peut pas être figée dans un moment.
Non, pas du tout. Il faut penser, la terreur, c'est un mouvement, c'est un phénomène historique, c'est pas une période. Non, je suis tout à fait d'accord.
La Convention, plus tard, ne décrétera jamais objectivement la terreur.
Non, c'est vrai. Les historiens ont bien montré que c'est ça, on n'a jamais décrété la terreur. Mais quand même, dans le vocabulaire des conventionnels, dans le vocabulaire des sections, on parlait toujours, on employait beaucoup ce mot « terreur ». La terreur est à l'ordre du jour, comme on disait très souvent. Donc, même si on n'a pas décrété formellement, la terreur était dans les esprits.
Elle a continué après la chute de Thermidor. Elle avait commencé bien avant que les historiens et même les contemporains, l'objective. Merci à vous, Timothy Tacket, votre livre « Anatomie de la terreur ». Aux éditions du Seuil, l'émission était préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, réalisé par Audrey Ripouille, avec à la technique Florent Beauvalet.